Vous êtes sur RTL.
À demain.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue effectivement dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, un père de famille activement recherché après le meurtre de sa fille de 10 ans. Info RTL que nous révèle Thomas Proutot. Dans ce journal également, le premier déplacement officiel de la Première Ministre. Et puis en Allemagne, l'ancien chancelier Schröder va payer très cher sa proximité avec Vladimir Poutine.
Nos deux focus du jour. Faut-il geler les loyers? Le gouvernement y songe pour préserver le pouvoir d'achat des Français. Et à 12h50, les fruits d'été, ils ont 2 à 3 semaines d'avance. C'est l'une des conséquences de la chaleur de ces dernières semaines. Est-ce vraiment une bonne nouvelle?
Notre question du jour sur RTL.fr. Faut-il bloquer le montant des loyers? Vous dites oui à 63%, non à 29%. Notre météo avec vous, Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Amandine.
Les températures baissent un peu après une nuit record.
Oui, on peut parler de la nuit la plus chaude pour un mois de mai dans de nombreuses villes et cet après-midi, vous l'avez dit, ça baisse sur l'ouest, mais ça reste au-dessus des normales dans de nombreux endroits, de 17 à 21 près de la Manche, 25 à 30 dans l'ouest et près de la Méditerranée, 30 à 33 degrés encore dans l'est. Côté ciel, il y a une ligne d'averse orageuse qui se décale vers l'est, plus ou moins marquée. À l'ouest, on retrouve un temps sec et très beau entre l'Aquitaine et le sud.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et on commence donc avec cette info RTL, ce mandat d'arrêt lancé contre ce père de famille de Haute-Savoie. Bonjour Thomas Proutot.
Bonjour.
Il s'agit d'un homme jusqu'ici sans histoire qui est soupçonné d'avoir tué sa fille de 10 ans.
Oui, le corps sans vie de la fillette a été retrouvé jeudi dernier dans le salon de la demeure familiale à Végy-Fonsnex, une petite ville au bord du lac Léman. Dès le lendemain, l'autopsie a conclu à une asphyxie mécanique conduite par un tiers, autrement dit un meurtre. Des traces rouges ont été constatées sur le cou de la victime. Or, le père était seul avec sa fille, la mère ayant quitté le domicile dans un contexte de crise conjugale. Père introuvable depuis les faits. Ce que l'on sait, c'est qu'il aurait été vu par des voisins quittant la maison en début d'après-midi, le jour de la découverte du corps. Selon nos informations, il venait de demander par SMS à sa femme de rentrer, ce qu'elle avait refusé. Son utilitaire Citroën a été repéré une dernière fois à la frontière suisse, sortant puis rentrant en France depuis. Aucune trace. Le quinquagénaire pourrait être armé car il pratique le tir sportif et son arme n'a pas été retrouvée. Depuis mardi, les recherches intenses menées par la section de recherche de Chambéry ont été élargies avec l'émission d'un mandat d'arrêt international. La famille, qui compte 2 autres enfants de 18 et 20 ans, n'avait jamais fait parler d'elle. Le père est marchand de biens et n'avait aucun antécédent de violence.
Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL.
Le premier déplacement officiel de la nouvelle Première Ministre.
Elisabeth Borne est attendue cet après-midi au Mureau dans les Yvelines. Elle doit y rencontrer des associations qui œuvrent pour l'égalité des chances et échanger avec des jeunes filles et des jeunes femmes. À gauche, la NUP présente son programme commun, photo de famille avec Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure pour le PS, Julien Bayou pour les Verts, Yann Brossat pour le Parti communiste. Marie-Bénédicte Allaire, sur quoi ont-ils réussi à se mettre d'accord?
Eh bien, un peu plus de 600 mesures, certaines immédiates, le relèvement du SMIC et des retraites à 1500 euros net, le blocage des prix des produits de première nécessité. D'autres devraient aboutir progressivement, comme la retraite à 60 ans, 1 milliard d'euros contre la violence faite aux femmes, la rénovation de 700 000 logements, la sortie de l'élevage intensif, mais aussi le référendum d'initiative citoyenne. C'est ce que Jean-Luc Mélenchon et ses nouveaux amis appellent un programme partagé. En résumé, on retire les mesures sur lesquelles on est d'accord pour les 5 ans de la législature et chacun garde son identité.
L'idée n'a pas été d'aboutir à une fusion idéologique. Dès lors, sur la question qui avait été le plus pointée du doigt, qui était l'Europe, il a été assez facile de s'accorder, puisqu'on ne demandait à personne d'imposer à tous les autres sa propre vision de ce que serait la pratique internationaliste en Europe.
Dans l'hémicycle, la liberté de vote des députés d'une future majorité de gauche serait respectée, même si Jean-Luc Mélenchon souligne au passage que la discipline serait préférable. Mieux vaut prévenir que guérir.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Cette union, Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie, a refusé d'y participer. Elle s'en est d'ailleurs expliquée ce matin sur RTL.
Moi, je ne vends pas des salades à mes concitoyens. Pour financer mes études, j'ai vendu des salades sur les marchés. Mais en politique, vous devez toujours dire la vérité. Jean-Luc Mélenchon, il a une vision de la société que je ne partage pas. Nous devons avoir un État fort, un État laïque, aucune compromission vis-à-vis du communautarisme. Et je pense que l'Europe est une solution. Et je pense également qu'on doit avoir une société apaisée. On ne peut pas être dans un mouvement de bruit et de fureur ou d'affrontement permanent avec les gens ou avec les entreprises.
Carole Delga avec Alba Ventura ce matin sur RTL.
Le tribunal d'application des peines d'Évry examine aujourd'hui la nouvelle demande d'aménagement de peine de Patrick Balkany.
Son épouse Isabelle, elle est toujours hospitalisée. Elle devrait d'ailleurs, selon les informations de RTL, changer d'établissement pour y subir une intervention sérieuse. Autre audience devant la Cour de cassation. Cette fois, elle concerne l'affaire Omar Haddad. Bonjour Anne Lehnaf.
Bonjour.
Quel est l'enjeu? Que peut-il concrètement se passer cet après-midi?
Alors l'enjeu, c'est le combat de la défense du jardinier marocain condamné en 94 pour le meurtre de Ghislaine Marchal près de Cannes. Des inscriptions en lettres de sang l'accusaient, le célèbre Omar m'a tué. Il veut obtenir la révision de son procès. Son avocate, Sylvie Novakovic, a donc déposé une requête en s'appuyant sur de nouvelles analyses, les traces de 4 ADN appartenant à 4 hommes différents, découvertes sur les lieux du crime, et ce n'est jamais l'ADN d'Omar Haddad. Et puis l'avocate a appris que les gendarmes avaient commencé à explorer une autre piste au début des années 2000, celle d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Enquête mystérieusement abandonnée qu'elle aimerait voir relancée. Cette commission d'instruction va décider ou non de transmettre ces nouveaux éléments à la cour de révision, ce qui ouvrirait potentiellement la voie à un nouveau procès d'Omar Haddad.
Et on suivra bien sûr tout ça avec vous cet après-midi. Anne Lehnaf, après les récents scandales, l'association Foodwatch dépose 2 plaintes, l'une contre Buitoni, l'autre contre Ferrero. Karine Jacquemart est directrice générale de l'ONG.
C'est pas parce qu'on s'appelle Nestlé ou Ferrero qu'on est au-dessus des lois. Le message, il est « ça suffit de jouer à pas vu pas pris ». On veut que ces entreprises rendent des comptes sur les défaillances par rapport à leurs obligations, que ce soit en prévention, c'est-à-dire avant d'avoir mis sur le marché des produits contaminés, et que ce soit après, une fois que le scandale a commencé, où là encore, on a eu affaire à un manque de transparence, des informations au compte-gouttes. Enfin, c'est absolument inacceptable. Pour le moment, on voit surtout que dans les derniers scandales alimentaires, il n'y a pas eu de sanctions, et c'est ce qui nous inquiète et c'est ce climat d'impunité qu'on veut casser. Donc que justice soit faite et qu'il y ait des sanctions dissuasives pour que ces scandales à répétition s'arrêtent.
La directrice générale de l'association Foodwatch au micro RTL de Virginie Garin. Au sud de Lyon, l'autoroute A7 totalement rouverte à la circulation. Elle avait été coupée hier à la mi-journée après un accident de poids lourd transportant des matières dangereuses.
L'ancien chancelier Gerhard Schröder peut être bientôt sur la liste des personnes sanctionnées pour leur trop grande proximité avec Vladimir Poutine.
Le Parlement européen examine la question aujourd'hui. Gerhard Schröder qui va perdre par ailleurs tous ses privilèges, tous ses avantages en Allemagne, Hélène Kohl.
La décision prendra effet dès demain et cela passe par la suppression pure et simple des 5 postes de hauts fonctionnaires qui sont à disposition de l'ancien chancelier depuis 2005 et surtout qui sont payés par l'État. Rien que l'an dernier, l'équipe de Gerhard Schröder a ainsi coûté 418 000 euros. Il occupe aussi des bureaux dans un bâtiment du Bundestag. Il devra les libérer. Le cas Schröder tournait au scandale ici, ça fait des mois en fait, depuis bien avant le début de la guerre, que la presse et une grande partie de la classe politique demandaient des sanctions, même si officiellement ce nouveau régime sec n'a rien à voir avec ses activités auprès des groupes énergétiques russes. C'est une réforme plus générale décidée par la commission budget du Parlement pour faire des économies. Angela Merkel aussi est concernée, mais à un moindre niveau. Il y a tout de même dans une note de bas de page indiqué noir sur blanc que Gerhard Schröder clairement ne travaille plus pour représenter l'Allemagne.
Hélène Kohl à Berlin pour RTL. L'Espagne, elle pourrait bien devenir le premier pays d'Europe à adopter un congé menstruel pour les femmes. L'avant-projet de loi, en tout cas, a été présenté hier, mais la mesure est loin, très loin de faire l'unanimité, Diane Cambon, y compris d'ailleurs parmi les femmes.
Le congé menstruel devait au départ être donné à toutes les femmes affectées par le cycle menstruel, mais finalement, seules les femmes souffrant de règles très douloureuses pourront bénéficier de ce congé. Et en présentant un certificat médical qu'elles devront renouveler chaque mois. Les féministes trouvent que l'initiative n'est pas très ambitieuse, comme l'explique Begonia Torres, militante de l'école du genre.
Avec cette loi, on va pouvoir normaliser un processus totalement naturel qui a été longtemps un tabou tout au long des générations précédentes. Cela permet de montrer que pour de nombreuses femmes, le cycle menstruel peut être très douloureux et peut empêcher de mener à bien les tâches quotidiennes.
Les féministes les plus sceptiques redoutent un retour de bâton qui pénaliserait les travailleuses, comme par exemple d'être davantage victimes de discrimination au moment de l'embauche.
Et Diane Cambon, la correspondante de RTL en Espagne.
Le Festival de Cannes cette semaine, J-3 avant Roland-Garros, c'est l'été qui arrive.
Ah oui, ce sera dimanche le coup d'envoi du tournoi, tirage au sort ce soir. Et côté femme, l'une des favorites cette année, c'est Iga Świątek, la polonaise, nouvelle numéro 1 mondiale, Isabelle Langer.
C'est en effet la nouvelle patronne du circuit, un costume que cette fan de Rafael Nadal ne s'attendait pas à porter à seulement 22 ans.
C'est arrivé tellement vite, c'est un peu écrasant, mais vous savez, rien ne change, les cours sont les mêmes, les adversaires aussi, et j'ai toujours les mêmes objectifs.
Et si elle est arrivée aussi vite au sommet, c'est parce qu'Iga Świątek est une perfectionniste qui ne laisse rien au hasard. Elle avait juste 18 ans quand elle s'est adjoint les services d'une préparatrice mentale qui l'aide à être plus détendue sur le court, notamment grâce à la visualisation. Après ses deux dernières saisons passées entre les hôtels et les stades, la polonaise a aussi décidé de s'ouvrir à d'autres cultures.
Après le Covid, je me suis dit qu'il fallait que je prenne du temps pour mieux connaître les endroits où je voyage.
Elle lit également beaucoup et rêve d'aller à quelques concerts cet été. Dans son casque, avant les matchs, Iga Świątek écoute souvent les mêmes musiques. Celle de Pearl Jam ou Led Zeppelin.
Portrait signé Isabelle Langer.
Faut-il geler les loyers ? J'imagine tous les locataires qui nous écoutent disent oui, bien évidemment. Je ne sais pas si vous êtes locataire ou pas, Amandine. Ça va être notre... Eh ben, alors, faut les geler. Ça sera notre première question. À tout de suite.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr. RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Ça pourrait faire partie effectivement du paquet d'annonces en faveur du pouvoir d'achat qui devrait être voté après les législatives. En tout cas, à Bercy, on a clairement fait savoir la semaine dernière qu'on était favorable à un gel des loyers dans les prochains mois.
Martial Liu nous le révélait ce matin sur RTL, le gouvernement envisage de geler les loyers. Alors pourquoi et surtout, est-ce possible? C'est le premier débat de RTL Midi avec nous, David Rodriguez de l'association de consommateurs CLCV et Pierre Otus, directeur général de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Bonjour à tous les deux. David Rodriguez, d'abord, c'est la CLCV qui a fait cette proposition de geler les loyers. Pourquoi?
Tout simplement parce que les loyers à l'heure actuelle sont indexés sur l'inflation, sur les prix à la consommation, hors loyer et tabac. Et c'est vrai que si pendant des années, cet indice de révision, l'IRL, a connu une certaine stabilité, il s'avère que là, effectivement, au regard de la conjoncture économique et de la forte inflation que nous connaissons, les loyers mécaniquement augmentent. Et donc, il faut prendre des mesures. Là, on est à 2,48% pour les loyers qui ont été révisés au mois d'avril. Ça représente quand même sur un loyer de 600 euros, ça vous fait 180 euros de plus par an, quand même. Et là, c'est très, très compliqué pour bon nombre de locataires qui peuvent avoir des ressources et des budgets bien entamés déjà avec la hausse de l'énergie, les augmentations des charges, l'électricité et le chauffage. Donc là, nous, ce qu'on proposait, c'est effectivement un gel exceptionnel des loyers, enfin, donc des révisions annuelles de loyer pendant 12 mois, avec en parallèle une réflexion sur la création soit d'un nouvel indice qui serait moins sujet aux fluctuations de l'inflation, hein, parce que là, il ne faut pas se leurrer, hein, je ne pense pas que d'ici la rentrée, l'inflation aura cessé, donc si c'est pour qu'on arrive à 4 voire 5% d'ici la fin de l'année, ce sera clairement intenable pour les locataires. Donc, soit on crée un nouvel indice, ça peut être par exemple, on garde l'indice des prix à la consommation, mais en sus du tabac et des loyers, on peut y retirer par exemple l'énergie, hein, ou certains produits alimentaires, parce que c'est vrai que ce sont des éléments qui n'ont pas de corrélation de toute façon avec avec le paiement des loyers. On peut sinon essayer de le caper. C'est-à-dire que voilà, toute révision annuelle de loyer ne peut se faire qu'entre 0,5 et 1,5%. Après, il faut toujours déterminer les seuils. Mais de toute façon, on ne peut pas rester sans rien faire, parce que c'est une question qui est cyclique.
On va poser la question à Pierre Otus, qui est aussi avec nous. 40% des Français, hein, il faut le rappeler, sont locataires. Vous représentez-vous les propriétaires? Est-ce qu'ils seraient prêts à jouer le jeu?
Les propriétaires ont parfaitement conscience qu'il y a un sujet inflation et de capacité à payer le loyer, qui est une dépense importante pour bon nombre de concitoyens.
C'est 25 à 40%,
surtout dans les métropoles et dans les territoires les plus tendus, parce qu'il faut quand même rappeler que dans une grande partie du territoire, les loyers ont plutôt tendance à baisser et les propriétaires n'appliquent pas d'indice, faute de pouvoir l'appliquer. Mmh. Voilà. Moi, je m'interroge quand même. Alors, je veux bien les propositions de la CLCV. On aurait bien aimé être associé à cette réflexion de Bruno Le Maire, en tout cas des services de Bercy, en tant que représentant des propriétaires, parce qu'on est quand même un peu concernés. De vouloir changer un indice qui est censé suivre l'inflation, c'est-à-dire que quand il nous plaît, on le garde, quand il ne nous plaît pas, on le supprime.
Mais geler les loyers. Mais
geler les loyers, ça ne nous va pas. Tout simplement parce qu'il n'y a aucune compensation derrière. Les propriétaires ont leurs charges, voient leurs impôts exploser, je dis bien exploser, la taxe foncière, c'est 3,40 l'augmentation.
Sauf que les propriétaires sont plus aisés que les locataires. C'est-à-dire que.
C'est vous qui le dites.
Par définition, celui qui a les moyens de louer une résidence secondaire, il est plus aisé que celui qui loue, généralement c'est des jeunes, c'est des étudiants, c'est des jeunes ménages.
Il y a un tiers des propriétaires, je crois, qui sont des retraités.
Disons-le, ça c'est incontestable. Alors,
je pense effectivement, qu'il faut être prudent. Il faut être très prudent dans l'opposition du méchant propriétaire
et je ne dis pas ça, je dis qu'ils sont plus aisés, j'ai été modéré, ils sont plus aisés.
Bien sûr,
pour un certain nombre d'entre eux. Donc dans une période difficile, peut-être que l'effort peut être mis sur les propriétaires plus que sur les locataires, et notamment, je pense, aux étudiants, jeunes.
Bien sûr. Sauf que
jeunes ménages.
On est dans un contexte où. Famille
monoparentale.
Les impôts qui pèsent sur les propriétaires sont les champions du monde de l'imposition de l'immobilier en France. Bon. Les impôts qui pèsent sur les propriétaires, dont la taxe foncière en premier, explosent, vont exploser encore plus. Donc il y a des charges qui augmentent aussi. Le prix des travaux augmente. Ce sont les propriétaires qui les payent. Ils peuvent les déduire, mais ils les payent quand même. Les obligations qu'ils vont avoir en termes de rénovation énergétique prochainement pour pérenniser leur patrimoine qui puisse être à l'offre pour les locataires. Et ce que j'ai dit, c'est que c'est très dangereux de travailler sur un indice sans vision à long terme, sans mécanisme de compensation qui peut permettre aux propriétaires de maintenir à flot les locations, parce qu'in fine, ce sont les locataires qui seront pénalisés, puisqu'il y aura moins de biens.
Ça représente combien les privés par rapport au parc de location en France?
Il y a 7 millions de logements privés en mise en location pour environ 4 millions de bailleurs. Donc on n'est pas sur des pétroliers, hein. C'est-à-dire que c'est des gens qui possèdent 1 à 2 lots en moyenne.
David Rodriguez, vous avez échangé effectivement avec Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, ou en tout cas ses services à Bercy. Il semblait plutôt attentif à la question.
Il reste attentif. Après, on ne peut pas préjuger, bien évidemment, de la mesure qui sera prise. Si même une mesure sera prise, on peut penser que oui, bien évidemment, du moins nous, on l'espère. En plus, on a cette fenêtre de tir législative, bien évidemment, avec la loi sur le pouvoir d'achat qui doit être étudiée et débattue cet été. À notre sens, il faut absolument, de toute façon, une mesure sur les loyers.
Mais vous entendez ce que dit Pierre Othus, que les propriétaires ne peuvent pas payer pour tout?
J'entends tout à fait. Après, c'est facile. On peut dire également que les locataires ne peuvent pas payer pour tout le monde et que par définition, c'est vrai, même s'il ne faut pas aller sur cette caricature du bailleur aisé, par définition, effectivement, il a davantage de ressources. Sur le changement d'indice, il y a eu des précédents, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début des années 2000-2005, c'était l'indice du coût de la construction qui s'appliquait. L'indice du coût de la construction, il est monté jusqu'à 4,83%. 4,83%. Et là, on y va. On y va très clairement de façon
2,48, vous avez dit.
2,48, ce sera très certainement de toute façon. Je pense que le prochain indice, l'IRL, va être publié le 15 juillet, 15 ou 16 juillet. Il ne sera pas plus bas, très clairement. Donc on va tout doucement, mais sûrement, à mon sens, d'ici la fin de l'année, aux alentours des 4-5% de révision, d'indice de révision annuelle du loyer. L'ICC était à 4,83, l'indice du coût de la construction. On a modifié l'indice. On a créé un nouvel indice qui était l'indice de référence des loyers, qui était différent de celui qui s'appliquait à l'heure actuelle, parce que c'était précisément un panier de valeurs où on prenait en compte les prix à la consommation, les prix, l'indice du coût de la construction et l'IPEA, c'est l'indice du prix des travaux d'entretien et d'amélioration. Et ce n'était pas encore suffisant parce qu'il y avait une prégnante trop liée encore aux travaux de construction
Othus,
dedans.
Juste, Pierre Othus, d'un mot, est-ce que si le gouvernement disait on gèle les loyers et en contrepartie on aide d'une façon ou d'une autre les propriétaires?
Il va falloir effectivement réfléchir comme ça. D'abord, nous consulter et discuter avec nous, pour qu'on n'apprenne pas cette nouvelle par détour. Avec le grand travail des journalistes que vous êtes, on l'apprend aussi. Bon, ce qu'on veut, nous, c'est qu'il ne faut pas mettre le marché locatif à l'arrêt. Et qu'in fine, cette offre locative, qui tend à diminuer pour de multiples raisons et des nouvelles obligations qui pèsent sur ces propriétaires bailleurs, eh bien, il faut faire les choses de manière équilibrée. Donc, on appelle à la grande prudence sur ces mesures.
Merci beaucoup, M. Othus. Et si j'ai bien écouté ce matin Martial Youx, la probabilité que cette mesure passe est importante, puisque Bercy et Bruno Le Maire permettraient aussi de bloquer les APL, l'aide personnalisée au logement, et donc c'est une économie de 1 milliard pour l'État. Donc si l'État est gagnant, il y a des chances que la mesure passe.
Sur le dos des propriétaires, c'est bien.
À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Les variétés tardives ont 3 semaines d'avance. Normalement, on devrait les ramasser au 10 juin et on a fait le premier passage aujourd'hui.
C'est l'une des conséquences de la chaleur de ces dernières semaines. Les fraises sont en avance, vous l'avez sans doute constaté sur les étals. 3 semaines d'avance, on vient de l'entendre. Alors, est-ce ou non une bonne nouvelle? Les autres fruits d'été sont-ils aussi concernés? Quelle incidence sur les prix pour nous consommateurs et sur le goût? C'est le deuxième débat de RTL Midi. Bonjour Françoise Roch.
Oui, bonjour.
Vous êtes la présidente de la Fédération nationale des producteurs de fruits. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. 3 semaines d'avance, nous disait ce producteur de fraises. Est-ce que c'est le cas pour tous les fruits d'été ?
Non. On voit bien. Enfin, la fraise, c'est une plante que l'on change tous les ans, tous les 2 ans. Les arbres fruitiers sont un petit peu plus résilients. Donc, on sent bien qu'on est en train d'avancer. Pour l'instant, on parle d'une semaine, 10 jours, mais on n'a pas...
C'est-à-dire pour les abricots, les cerises...
Voilà, exactement. Tous les fruits, parce que même la pomme, la poire, le kiwi, que l'on va ramasser beaucoup plus tard à l'automne, est en train, effectivement, de prendre un petit peu de précocité, ce qui est apprécié par les producteurs, parce que on rentre nos récoltes plus rapidement.
C'est
on
une
les
bonne
met
nouvelle,
plus
donc.
Vite à l'abri. Pardon ?
C'est une bonne nouvelle pour les producteurs ?
Oui, c'est bien pour les producteurs. Les années un peu précoces, c'est toujours des bonnes années.
Alors ce matin sur RTL, on va écouter le président de l'AOP Fraise de France, Xavier Mas, qui lui annonçait quand même une baisse de la production pour les fraises de 20 à 30%. Écoutez.
Il y aura une baisse de la production parce que tous les producteurs ne seront pas en capacité de ramasser l'ensemble de la production, vu la rapidité de l'arrivée à maturité des fruits, d'une part. Et d'autre part, si vous voulez, avec ces chaleurs, les fruits ont du mal à grossir et mûrissent beaucoup plus rapidement, quoi. On estime entre 20 et 30% de perte de production entre la surmaturité et la perte de calibre. Oui.
Françoise Roch, ce n'est pas une si bonne nouvelle pour tous.
Et le problème, c'est que On a du mal à se comparer à la fraise, parce que je vous disais, c'est plante annuelle. C'est un peu à part. Nous, d'ailleurs, on les considère, si vous voulez, techniquement comme des légumes, parce que c'est plus la façon de travailler des légumes. Donc, en arbre fruitier, là où je le rejoins, c'est que on risque d'avoir un peu de perte de calibre, donc des fruits un petit peu plus petits, mais par contre, beaucoup plus savoureux, parce que... on concentre le goût, donc on concentre le sucre, les arômes, etc. Donc, à aujourd'hui, c'est pour l'instant plus une bonne nouvelle pour le consommateur. Et par contre, effectivement, il ne faudrait pas que la pluie n'arrive pas du tout sur les 3 mois à venir.
En fait,
là,
si je voulais,
ça pourrait être compliqué.
Si je voulais résumer votre position, le problème, c'est la fraise, qui est un problème particulier. Mais les autres fruits ne sont pas impactés par cette précocité.
Pour l'instant, on aura un peu de précocité. On l'a vu en cerise, on a quelques jours d'avance en cerise. Les abricots aussi nous annoncent quelques jours d'avance.
Mais c'est pas ennuyeux. Pour la fraise, ça l'est. C'est ça que je veux
dire.
Voilà, c'est vraiment particulier la fraise. En plus, vous nous avez appris quelque chose sans doute.
C'était considéré comme un légume.
Oui, dans la manière de travailler.
C'est
ça que je retiens. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Oui. Moi, je suis pas un grand spécialiste de la fraise, ni évidemment de sa culture. Mais je retiens effectivement ce que vous avez dit parce que c'est particulier à la fraise.
Françoise Roch, oui. On parle beaucoup de pouvoir d'achat en ce moment. Est-ce que ça va avoir un impact sur les prix, tout ça ? En clair, est-ce que nos fruits vont coûter plus cher ? Par exemple, pour la fraise, on ne voit pas vraiment de baisse de prix.
Et pourtant, aux producteurs, elle baisse énormément.
Ah, donc au milieu, il y a quelqu'un qui s'en met plein les poches, c'est ça ?
Écoutez, je ne sais pas. Mais le producteur, effectivement, on a vu baisser, des collègues qui font de la fraise ont vu baisser leur prix. Nous, en fruits d'été, pêche, abricots, nectarines, prunes, aujourd'hui, on est sur, hormis en prunes, en début de saison où on a gelé, notamment dans le Tarn-et-Garonne, aujourd'hui, on a une récolte normale. Donc, quand vous avez une récolte normale, nous, on est sur le phénomène d'offre et de demande. Donc, si l'offre est normale et la demande normale, les prix, il n'y a aucune raison que ça flambe.
Bon, mon kilo de pêche, quand je dois payer combien au bon prix, juste pour savoir.
Pardon ?
Je dis mon kilo de pêche, le bon prix, pour vous, c'est quoi ? En moyenne. Non, mais qu'on sache pour...
Oui. Un kilo de pêche, c'est 2-3 euros, quoi.
Ah ben, c'est pas la même chose, c'est 30% de différence entre 2 et 3 euros. Mais en revanche, je voulais que vous me donniez un petit conseil, si je vais aller chez le primeur ce soir. Je prends quoi, à votre avis ? Quel est le fruit qui est le plus adapté à ce 19 mai, Madame Rock ?
Ah là, on rentre dans... Alors la fraise, bien sûr, pour aider mes collègues.
D'accord, je prends quoi, des gariguettes ?
Bah, française en tout cas.
Non, il y a eu un très gros effort de fait sur les variétés de fraises. Il y en a des très bonnes. Après, ça dépend du goût du consommateur.
Bien sûr, mais gariguettes, c'est bien, paraît-il.
Ah, gariguettes, c'est bien. On arrive malheureusement en fin de production de gariguettes. Fin mai, la gariguette se termine et on passe sur des variétés très goûteuses comme Marat des Bois, Charlotte, etc.
Charlotte.
Il y a eu de gros efforts de fait sur les variétés de fraises. Mais là, par contre, on rentre en production en cerise. Donc, on a la cerise, là, sur 3 mois qui démarre. Et la cerise, c'est un vrai fruit plaisir.
Eh bien, merci, comme tous ces fruits que vous nous avez cités. C'était un plaisir de vous écouter. C'était un peu d'été à l'heure du déjeuner. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous écouter.
C'est quoi votre fruit préféré, vous ?
Moi, j'aime bien la fraise. Ah. J'aime bien la fraise. Et puis, je la ramène, d'ailleurs, très
souvent. Oui, souvent.
Et...
J'osais pas.
Il est 12h59 et nous allons marquer une pause. À tout de suite.
RTL Midi.